Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg pour ce nouveau numéro de talk show. Aujourd'hui, notre invité est professeur en criminologie. Il est également un des porte-parole, on va dire, en France. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez en deux mots nous dire c'est quoi votre docteur en criminologie? Ça veut dire quoi?
Je ne suis pas docteur, je suis professeur.
Autant pour moi.
J'exerce la direction de la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers et je dirige le pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise.
D'accord.
Ce qui veut dire que on ne s'ennuie jamais, on n'est malheureusement pas au chômage et on suit les questions du chaos. Chaos qu'il soit criminel, du chaos qu'il soit militaire, du chaos qu'il soit sécuritaire, du chaos qu'il soit stratégique et je forme avec mes collègues plusieurs centaines d'étudiants à la gestion de la crise, dans l'anticipation, l'analyse du renseignement ou la gestion des affaires judiciaires complexes.
On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on commence par l'actualité française et l'affaire Liana, cette jeune fille qui a été assassinée. Est-ce que c'est nouveau ce phénomène ou est-ce qu'on en parle plus maintenant ?
Non, ça n'est pas nouveau et on en a toujours beaucoup parlé. Les crimes sur les enfants ont toujours été particulièrement sensibles et l'opinion s'en est toujours emparée. Alors les réseaux sociaux, l'augmentation du nombre de médias et le fait qu'on parle de crimes qui n'étaient pas seulement des crimes du voisinage, mais les crimes du pays, de l'Europe, du monde, amène à ce que toute la misère du monde se retrouve sur votre palier ou sur votre poste de télévision, de radio ou votre téléphone portable. Mais sur le fond, il y a toujours une très grande émotion sur les affaires d'enfants. La plus impressionnante étant l'affaire Patrick Henry, qui avait amené Roger Jiquel dans le journal de 20h d'il y a presque 50 ans à dire « La France a peur » et ce qui avait marqué les esprits après l'enlèvement et l'assassinat d'un jeune garçon par Patrick Henry.
Pour vous, il n'y a pas d'évolution exponentielle de ce phénomène?
Quantitativement, c'est assez compliqué car il faudra avoir un outil statistique moderne et efficace qu'on n'a pas vraiment. On a des indications sur les agressions sexuelles, mais plutôt récentes, et avec un double souci, c'est que d'abord, il y a un phénomène de révélation du passé considérable entre l'affaire MeToo, Bétarame, la Civise, les travaux sur l'inceste, etc., qui révèlent un océan dramatique de tragédies individuelles, de violences sur des jeunes filles, mais aussi pas mal de jeunes garçons qui traumatisent toute la société et qui obligent évidemment à revenir en arrière pour savoir si c'était un fait individuel, si c'était une sérialité, ce qui permet dans certains cas de rouvrir la prescription, dans d'autres de dire non, ce qui n'empêche ni le traumatisme, ni le traumatisme individuel, ni celui de l'opinion. Et puis depuis la Covid, il y a une forte augmentation, un double phénomène donc, du nombre de plaintes, d'abord par la libération de la parole, l'obligation des personnels éducatifs, scolaires et une plus grande attention qui y est portée. Et du coup, ça amène un drame qui est l'embolie du système policier et du système judiciaire face à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de plaintes, certaines très anciennes, d'autres beaucoup plus modernes, et dont ils ne savent plus quoi faire, car ils sont peu nombreux, totalement submergés avec des injonctions contradictoires, des procédures d'une lourdeur absolument invraisemblable, et une difficulté à accepter la parole des enfants depuis l'affaire Doutreau.
D'accord.
Dans l'affaire Doutreau, des enfants manipulés par leurs parents avaient accusé une douzaine d'autres personnes de les avoir violées, avant de revenir sur leurs accusations, de mettre en pièces l'instruction à charge qui avait été menée par un très jeune magistrat laissé seul face à la gestion de ce drame. Et depuis, on est passé de la présomption de vérité pour les enfants à une sorte de présomption de mensonge qui amène à être beaucoup plus précautionneux, ce qui est normal, mais du coup à prendre un temps invraisemblable pour gérer des affaires en cours, immédiates, vivantes, chaudes comme on appelle, pas seulement des cold cases sur lesquels on a le temps du temps, mais des affaires chaudes où on pourrait empêcher un prédateur de recommencer. Et là, eh bien, la justice, elle est face à cette espèce de phénomène de autoprotection pour éviter la faute et du coup, manque de protection pour les victimes et manque d'écoute des victimes.
Il y aurait une solution rapide, selon vous, à arrêter ce phénomène ?
Ah, une solution rapide, quand le problème est systémique et qu'il n'est pas lié simplement à des fautes individuelles, non. Mais le fait déjà de dire, écoutez, on va tout mettre à plat et on va faire comme chez vous. Je suppose que votre radio, à un moment, elle s'est numérisée. Elle n'est pas restée en analogique. Je suppose qu'à un moment, vous avez décidé de vous abonner à Internet et pas seulement d'acheter le journal papier.
Effectivement.
Vous avez décidé, Eh bien, tout ça n'existe pas dans le système judiciaire ou très lentement, très peu. Et il n'y a pas d'administration du ministère de la Justice au sens judiciaire du terme. C'est-à-dire que les magistrats, on leur demande aussi d'être experts comptables, gestionnaires, informaticiens. Ce n'est pas leur métier. D'accord. Deuxièmement, on a beaucoup de magistrats englués dans des procédures dites collégiales, alors qu'on a trouvé des solutions, par exemple pour les tribunaux pour enfants, en prenant des assesseurs civils, des retraités, des avocats retraités, des magistrats retraités, à qui on pourrait faire jouer le rôle de la collégialité. On gagnerait 2/3 de postes existants pour les remettre sur le terrain. On pourrait demander aux start-upers qui sont en train de moderniser à marche forcée nos armées, notamment sur les drones, de venir moderniser à marche forcée le ministère de la Justice. Et puis ensuite, demander à nos élus, parce que c'est nous qui les élisons, notamment les parlementaires, d'arrêter de surproduire de la loi qui ne sert à rien juste pour montrer qu'ils en ont fait, et passer 8 jours dans un tribunal, comprendre comment ça marche, revenir, et plutôt que de faire une commission d'enquête qui montre pourquoi rien ne fonctionne, faire une commission préalable en disant comment on pourrait faire en sorte que ça fonctionne.
D'accord.
Ce qu'ils ne font jamais.
Alors, Alain Bauer, on va avancer dans la semaine dernière avec ces émeutes à Paris. Est-ce que cette émeute marque une date à retenir dans le calendrier français ? On allait très loin samedi dernier.
Alors, d'abord, la première phase de mon cours de criminologie, c'est en matière criminelle, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. En matière d'émeute, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. La France est un pays qui a 1000 ans de jacquerie. 1000 ans. Donc, si vous voulez, on ne va pas se traumatiser à chaque mouvement de foule ou émeute en disant que c'est la fin du monde. Même si c'est insupportable, même si c'est énervant, même si on sent bien qu'il y a dans le passage à l'acte de l'émeute quelque chose de particulier, il faut se rappeler qu'en France, l'État ne sait pas négocier avec la société. Il attend le rapport de force parce que s'il n'y a pas de casse, c'est pas sérieux. Et alors, en oubliant les hooligans ou les casseurs qui se sont servis de la victoire du PSG. Je rappelle que les Gilets jaunes, c'était des gens qui travaillaient la semaine, qui n'avaient aucune idée de ce qu'était la manifestation, qui se sont retrouvés face à une incompréhension totale sur le mode d'emploi de la gestion de la manifestation, qui se sont énervés, agacés, qui sont passés à la colère, comme c'est le cas de l'histoire de ce pays qui, du coup, a provoqué quelques révolutions, quelques décapitations, un peuple régicide, c'est assez rare dans le monde. Et donc, la violence, elle fait partie, malheureusement, du mode d'emploi de la discussion avec l'État qui, jusqu'à présent, ne sait pas négocier dans le calme. Il ne sait pas négocier par anticipation et il pense que la violence est un indicateur de l'intensité de la mobilisation. Il est partie prenante de ce qu'il subit. Deuxièmement, il y a une problématique alors plus complexe, sans doute, dans l'éducation des émeutiers et dans l'abandon du service public d'un certain nombre d'espaces et qui ne sont pas limités aux cités, comme on le dit trop facilement, mais à toute une série d'espaces du service public qui s'est rétracté. Si vous voyez comment marche l'hôpital, normalement ça énerve tous les patients. Si vous voyez comment marche le système éducatif, ça énerve tous les patients. Si vous regardez l'affaire du périscolaire, ça énerve à juste titre tous les parents, et le passage à l'acte, il n'est pas loin de la colère. Moi, depuis l'affaire Liana, quand je parle dans la rue avec des gens qui, très aimablement, pas du tout agressifs, viennent me dire « alors on vous a vu, on vous a écouté, on vous a entendu, alors que pensez-vous de ci ou ça ?» Je sens surtout une extraordinaire émotion, et encore plus, une encore plus extraordinaire colère, une colère sourde, une colère puissante. Et dans la colère, malheureusement, le passage à l'acte, il est juste à côté, c'est le voisin immédiat.
Alors,
De la colère. Et puis enfin, je termine là-dessus, il y a l'effet de foule. l'effet de foule est toujours un phénomène qu'on a le plus grand mal à maîtriser. J'ai réédité l'ouvrage de Gustave Le Bon il y a quelques années sur cette question. Il faut la prendre en considération. L'effet de foule, il amène mécaniquement des gens parfaitement honnêtes, normaux, à se faire porter par la foule et à avoir aussi l'effet d'aubaine. Ah bah tiens, il y a un magasin cassé, pourquoi ne pas faire mes courses aussi en plus, vous voyez. Donc tous ces éléments doivent être pris en compte. Le principe de complexité, c'est le principe de la vérité.
Alors,
c'est le Zohar de la criminologie.
D'accord. Alain Bauer, quelque chose qui est dans les deux affaires, c'est la justice, qui a été extrêmement clémente dans les deux cas. Là aussi, ça montre la complicité de la justice française.
Mais non, la justice, on lui demande. Les mêmes politiques qui critiquent la justice sont les mêmes qui votent les lois qui lui permettent de faire ce qu'elle fait. Donc je propose qu'ils arrêtent. Ils arrêtent de voter des lois, qu'ils commencent à réfléchir à l'effet que cette loi va avoir en demandant experts, aux professionnels du terrain, de venir les voir avant de les voter et de dire, on voudrait faire ça, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, non. Deux, quels sont les effets pervers de ce qu'on va faire parce qu'il y a toujours des effets pervers? Voilà. Ouais. Et trois, qu'ils décident ensuite. Après, c'est leur rôle de voter la loi qu'ils ont envie de voter.
Pour vous, la commission d'enquête,
10 ans après, qui explique pourquoi ça a merdé alors qu'on savait depuis le début que ça ne pouvait que déraper, il nous le demande avant. Ça nous fera des vacances à tous.
Pour vous, la justice a fait son travail?
Non, je dis pas ça. La justice pense qu'elle a fait son travail et quand vous lui posez la question, il pense qu'ils ont tout fait bien et rien ne marche. Parce que le problème n'est pas individuel, il est systémique.
D'accord.
C'est comme lors du vol du casse du Louvre. Le lendemain du casse du Louvre, tous les dirigeants du pays sont venus vous expliquer qu'ils avaient tout bien fait. C'est comme si le casse n'avait pas eu lieu. Pourtant, les bijoux, ils ont été volés. Et à ma connaissance, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Et donc, cette idée que j'ai tout fait bien selon le manuel, en dehors du principe de réalité, c'est le problème majeur d'une bureaucratisation totale du système qui est hors sol. Et donc, la difficulté qui existe aujourd'hui, c'est de le remettre dans le réel. Le remettre dans le réel, c'est un travail citoyen. Ça n'est même plus un travail politique, ou ce n'est plus un travail administratif, ce n'est plus un travail légal, ce n'est pas un travail pénal. C'est le remettre dans le réel. On juge au nom du peuple français, il faut le réintégrer dans le système pénal.
Et il faut interdire les matchs de football?
Non, pourquoi?
Pour éviter les
émeutes. La quasi-totalité des rencontres de football se passe bien. J'ai été chargé il y a quelques années par Ligue de football professionnel d'une mission de sécurisation des stades. Elle fonctionne parfaitement. Il y a 4, 6 ou 10 fois moins d'événements dans les stades. Il y en a toujours beaucoup autour et sur les parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 catégories de gens qui vont au stade. Les supporters qui aiment le football, et en général en famille, les ultras qui aiment parfois un peu trop le football et à qui il arrive de se battre avec d'autres ultras, et les casseurs qui n'aiment pas le football mais qui n'aiment que la violence. Le problème, c'est les casseurs. Les casseurs, c'est pas un problème du football. Par contre, il y a un vrai sujet dans le football amateur désormais sur la manière dont les parents viennent intervenir de manière violente à l'intérieur d'une rencontre parce qu'ils sont pas contents. Et la rééducation des parents, ça me paraît un acte absolument essentiel. Mais la rééducation des parents, c'est pas un problème de rencontres de football. C'est un problème de la rencontre ordinaire qu'on voit ici et là, dont on a des effets dans la presse locale, mais qu'on traite assez rarement. Or ça, c'est un problème de culture de la violence qu'il faut traiter de la même manière que les agressions sexistes et sexuelles, par exemple.
Alors Alain Bauer, il y a évidemment une deuxième partie à cette émission, c'est sur l'actualité israélienne, votre avis nous intéresse. Est-ce qu'avec les frappes qui se sont déroulées cette nuit, on peut dire que le cessez-le-feu est rompu?
Il n'y a pas eu de cessez-le-feu, puisque les frappes ne se sont jamais arrêtées. C'est pas plus qu'il y a eu un blocus du détroit d'Ormuz, puisque des bâtiments ont toujours pu passer essentiellement dans un sens ou dans un autre, essentiellement chinois ou indien, essentiellement... Non, tout ça sont des illusions d'optique. C'est la manière de croire à l'information qu'on invente soi-même. La réalité, elle est malencontreusement très différente. Il y a un enjeu politique majeur, c'est arriver à se dépêtrer de cette stratégie extraordinairement et tragiquement efficace du Hamas d'empêcher à tout prix tout accord de paix, tout dialogue de paix, toute finalisation des accords d'Abraham au moment où ils considéraient qu'ils étaient les grands perdants de la situation qui permettait à Israël de rétablir des relations diplomatiques cordiales et normales avec la plupart des États arabes. Deuxièmement, de sortir de la crise iranienne alors que tout le dispositif a 2 mois de retard depuis la révolte de la société iranienne et sa répression tragique avec plusieurs dizaines de milliers de morts et plusieurs dizaines de milliers de personnes en prison. On ne fait pas une révolte sans dirigeants. Une révolte, ça nécessite des leaders. Si tous les leaders sont morts ou en prison ou exécutés au fil des jours, il y a donc un problème. Il a fallu 2 mois aux Américains pour se rendre compte qu'ils étaient en retard, qu'ils n'avaient pas les moyens d'intervenir rapidement. Il n'aurait jamais fallu arrêter la guerre des 12 jours, de ce point de vue-là. Mmh. Si la décision avait été prise, il fallait aller jusqu'au bout. Et ça, D'accord. c'est la difficulté d'opérateurs qui n'ont qu'une vision tactique et pas du tout de vision stratégique. Il y a un débat existentiel pour l'État d'Israël dans sa survie et il y a un débat existentiel pour le régime iranien dans son maintien. Les Américains voulaient désarmer l'Iran, les Israéliens voulaient effondrer l'Iran. Pendant un temps, ils avaient, je dirais, une ligne cohérente et ensemble. Là, clairement, ils n'en ont plus. Ils vivent de manière parallèle en s'éloignant tendanciellement les uns avec les autres. Et le problème essentiel qui nous reste aujourd'hui, c'est la capacité de nuisance des Iraniens. Ils auront pris le contrôle de leur propre pays et le contrôle, en tout cas la prise en otage des deux détroits essentiels qui sont Bab el-Mandeb et à nouveau avec les Houthis et Hormuz, ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Donc le débat aujourd'hui, c'est qui est capable d'arrêter la guerre.
On a beaucoup du mal à comprendre la politique de Donald Trump. Accord, pas accord, ultimatum non respecté. À quoi joue le président américain?
Le président américain, il est toujours comme ça. Ça a toujours été sa technique. Il l'a écrit depuis 25 ans dans The America We Deserve. Il l'a écrit dans le premier papier qu'il avait acheté à prix d'or. Je raconte ça dans Trump, le pouvoir des mots, dans le New York Times. Donald Trump, c'est un joueur de poker menteur. Qui mise parfois très fort, puis retire, et à la fin, il essaye toujours d'avoir un jeton de plus que ce qu'il avait au début. Face à lui, il a des joueurs d'échecs menteurs, c'est assez rare, mais ça existe. Des joueurs de go, puisque la Chine n'est pas un élément tout à fait secondaire dans ce qui est en train de se passer, dans sa capacité à soutenir de loin, mais à intervenir de près. Une situation très compliquée de retour des empires, de revanche ou de vengeance des grands empires, et la Perse a été un très grand empire qui n'a pas oublié qu'elle l'était. Il y a eu une petite opportunité de faire tomber le régime, elle a été loupée à quelques semaines près. Depuis, la question essentielle, c'est quelles sont les conditions d'un cessez-le-feu dans une guerre éternelle, puisqu'il n'y aura jamais de paix.
On va répondre à cette question avec vous dans un instant. Si vous étiez Benjamin Netanyahu, qu'est-ce que vous feriez?
J'irai prendre ma retraite.
Ah, d'accord. Dans le cas où vous soyez à la tête de l'État d'Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut suivre ce que demande Trump ou faut continuer sa route?
Les États, ils vivent leur vie, les Israéliens décident de leur politique et je me considère toujours de manière essentielle comme un non-acteur puisque un non-électeur. Je donne de leçons à personne.
D'accord.
Je considère qu'à un moment ou un autre, les Israéliens ont décidé d'avoir une Knesset extrêmement complexe à traiter. Et donc, le débat qui existe aujourd'hui, c'est que veulent-ils eux? Veulent-ils la paix? Veulent-ils la guerre? Veulent-ils la destruction de l'Iran? Et une fois qu'ils auront donné cette réponse essentielle à ce qu'ils veulent, ce qui avait été pendant longtemps, par exemple, la politique de Golda Meir, qui pour moi est vraiment le modèle politique que je considère le plus parlant dans l'histoire d'Israël, à la fois par sa responsabilité, sa volonté et son acceptation de quand on subit un désastre, on se retire, ce qui a été le cas avec la commission Eisenkot. Moi, je veux simplement que l'État d'Israël et son peuple décident seuls de ce qu'ils veulent faire et de comment ils veulent faire, mais qu'ils acceptent de voir la vérité en face. Et donc, que la gestion du 7 octobre soit enfin traitée.
D'accord.
Et qu'après la gestion du 7 octobre soit traitée aussi, quelles sont la volonté des Israéliens pour leur propre avenir. Et ce n'est pas nous, de l'extérieur, qui le ferons à leur place, même si on peut avoir un avis sur la manière dont les gens se comportent, dans la manière dont les gens disent des choses, dont les gens veulent une sorte de guerre éternelle, de fin du monde. Mais je mets toujours en garde contre le syndrome de Massada. Dans le syndrome de Massada, tout le monde meurt.
Alors, il y a aussi beaucoup de commentateurs qui sont étonnés de la résistance des Iraniens. Vous, vous y êtes étonné ou vous y attendez ?
Pas du tout. Non, c'est un grand peuple qui s'est structuré depuis longtemps. Il a eu un moment de faiblesse durant la révolte de ses propres citoyens et c'est le moment où une action aurait pu être déterminante. Le moment est passé. La guerre, c'est plein d'opportunités, de moments, et quand on les rate, Mmh. Eh bien, ça a été raté. Voilà. Donc, moi, je crois à la résilience et à la résistance. Ali Jaafari a créé la défense mosaïque. On le sait depuis de très nombreuses années. C'est comme quand vous dites à des militaires américains, vous êtes au courant que le détroit d'Ormuz existe, oui. Vous êtes au courant que les Iraniens peuvent tout contrôler, qu'ils vous disent oui, virgule, et après, derrière la virgule, il y a une sorte de grand vide. Sur le thème, c'est pas qu'on le savait pas, c'est qu'on n'y croyait pas.
D'accord.
Alors j'enseigne pour les analystes du renseignement ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est si je vous dis ne mets pas les doigts dans la prise, il y a toujours un moment où vous allez mettre les doigts dans la prise pour voir ce que ça fait.
D'accord.
C'est comme ça.
Okay.
C'est un défaut humain majeur, et bien ça marche aussi, hélas, en matière de désastre militaire.
Donc je vous repose la question que vous posiez tout à l'heure. Comment on peut arrêter la guerre ? Quels sont les éléments ?
Il faut être deux, il faut avoir envie, faut vouloir, faut le décider.
Qui décide ?
Faut éviter les faux semblants. Ah bah là, Xi Jinping, Donald Trump, le pouvoir iranien, c'est-à-dire le petit comité Habib qui a pris le pouvoir dans une espèce de coup d'État invisible sur la monarchie. Et puis évidemment, Benjamin Netanyahou, et qui règle le problème avec l'Iran, le règle aussi avec les Houthis, le Hamas et le Hezbollah, puisqu'ils obéissent tous au même patron.
Vous pensez que des concessions seront obligatoires de la part des deux parties en guerre, c'est-à-dire Israël, l'Iran et les États-Unis, évidemment, on sera obligé d'obtenir des concessions ?
Ah bah, tous sont obligés de faire des concessions. Il y a 15 points qui ont été identifiés ici et là. Une dizaine font l'objet d'accord. Parce que pendant ce temps-là, les négociations continuent tous les jours. Hein. Oui. Il n'y a pas de non-négociation. Mais on sait ce que sont les points d'accord à peu près. Et puis il restera le nucléaire pour l'essentiel. Et puis à quel moment le Liban redevient un État, puisque c'est le feu avec les Libanais, c'est pas avec les Libanais que ça gère, c'est avec le Hezbollah tout seul, et donc avec Téhéran. Et donc la question, c'est à quel moment, voilà, mais la liste des concessions connues et acceptées par les uns ou les autres, elle est identifiée. Après, il y a des points de blocage, et encore d'ailleurs, ils avaient été débloqués dans des épisodes précédents. Rien n'empêche de trouver un cessez-le-feu.
Alors Alain Bauer, terminons cette émission par vos derniers ouvrages. Je crois que vous avez écrit un livre sur l'affaire Epstein.
Oui, absolument.
Vous pouvez nous dire deux mots ?
Ah bah, comme professeur de criminologie, je ne regarde pas que la géostratégie mondiale. D'ailleurs, j'ai commencé par regarder la géostratégie mondiale auprès de Michel Rocard il y a très longtemps, au millénaire dernier, dans les années fin des années 80, où j'ai eu droit, dans le désordre, à suivre de plus ou moins près la Nouvelle-Calédonie, la crise déjà en Nouvelle-Calédonie, la guerre du Golfe déjà, la chute du mur de Berlin déjà, Tiananmen, et puis l'attentat du décès d'Yves Duthéa. Mmh. Et j'ai rejoint les affaires criminologiques au moment où on m'a demandé de faire un point sur tout ce qui manquait dans l'enseignement supérieur français. C'est pour ça que mes collègues m'ont élu à la chaire du Conservatoire des Arts et Métiers, où j'ai regardé aussi de grandes affaires criminelles. Et au début, je dois dire honnêtement que j'ai regardé l'affaire du CNAM, Epstein, ouais. d'assez loin, comme un dossier comme un autre, d'un prédateur sexuel comme un autre, parmi les dizaines ou les centaines qui apparaissent, jusqu'à me rendre compte que c'était pas du tout ça. Grâce à une journaliste du Miami Herald, j'ai compris que c'était pas une affaire, c'était un système. Ouais. Et en écrivant le livre, après la publication des 3,5 millions de documents, d'une recherche très approfondie, de beaucoup de dialogues, de vérifications, de contrôles, j'ai découvert que c'était bien plus que ça. C'est un système de systèmes, un immense réseau criminel. Alors je précise, hein, je ne suis pas conspirationniste par nature, je fais même plutôt l'inverse en général. Mais là, je dois dire que j'ai découvert ce qu'on appelle au sens américain du terme une conspiration, c'est-à-dire une liste absolument invraisemblable de complices, de bénéficiaires, de victimes, de demi-mondains et demi-mondaines, de permacrocs et de mermacrels, de gens qui regardent ailleurs, de gens qui bénéficient d'informations, de gens qui sont sous influence, parfois sous raquette ou sous chantage, bref, un immense réseau de conspiration criminelle au sens de la criminalité organisée, et j'ai essayé d'en décrypter systématiquement tout ce qui était connu, vérifié, de démonter inventé, ouais. Et de constater ce qu'était la réalité de cela. Il y a quelques semaines, on a découvert que M. Epstein avait quatre résidences à Londres qui servaient de lupanar pour jeunes mannequins exploités et probablement sexuellement exploités, qu'au-delà de ce qu'on sait en France, on est en train de découvrir 2 nouvelles victimes, 11 nouvelles plaintes depuis le début d'année, 2 nouveaux phénomènes, peut-être de nouvelles adresses. Et donc j'ai voulu éclairer le public, qu'il sache ce qui est vrai, identifie ce qui est encore en cours d'instruction ou d'enquête, et puis fasse le point sur ce qui est faux.
Alain Boer, professeur en criminologie, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, et peut-être à bientôt. Merci.
Au revoir.